Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
On a l'impression que ça bouge et pourtant ça ne bouge pas. Ces tableaux, ces compositions géométriques se gonflent et se déforment. Le regard se perd dans des tourbillons, mais tout cela n'est qu'illusion. Je vous raconte maintenant l'artiste des illusions d'optique, Victor Vasarely. Nous sommes le 6 avril 1955, rue de la Boétie à Paris. Une petite foule d'amateurs est venue assister à un vernissage. Dans les salons du deuxième étage, une suite d'œuvres étonnantes ont en commun ce que le nom de l'exposition résume en deux mots, le mouvement. Sur une sculpture de Marcel Duchamp, une spirale tournoie sur un disque. Les mobiles du sculpteur Calder font flotter sous le plafond des formes qui s'agitent au gré des courants d'air. Le jeune artiste Jean Tinguely propose des sculptures motorisées qui bougent, dessinent parfois ou se déplacent toutes seules dans l'espace. Tout n'est ce soir-là qu'impulsion, fluctuation et balancement. Pourtant, à l'approche d'une paroi, quelques œuvres semblent, elles, bien statiques. De simples tableaux accrochés au mur. L'un d'eux représente une série de petits carrés noirs parfaitement alignés sur l'espace de la toile. Mais en s'approchant de plus près, les spectateurs sont troublés par le léger basculement de quelques carrés, comme si les formes tournaient sur elles-mêmes et venaient perturber l'ordonnancement de la structure pour la mettre justement en mouvement. La surface de la toile est bien immobile, mais ce léger dérèglement vient créer dans l'œil de l'observateur une sorte de frémissement qui met en branle l'image. Rien ne bouge, mais on perçoit bien un mouvement. Du moins, l'illusion d'un mouvement. C'est là l'élément majeur d'une œuvre devenue célébrissime, celle de l'artiste Victor Vasarely, qui, en signant le texte du quasi-manifeste qui accompagne ce jour-là l'exposition, fait office de chef de file d'un mouvement qui n'a pour l'instant pas de nom, mais sera bientôt connu comme l'art cinétique ou l'art optique. Victor Vasarely est né en 1906 en Hongrie, où après avoir brièvement étudié la médecine, il travaille comme archiviste, aide-comptable, puis dessinateur industriel. À peine plus de 20 ans, il découvre dans une revue que l'artiste Sándor Bortnik vient de fonder à Budapest un atelier inspiré du Bauhaus, une école allemande devenue un véritable mouvement qui tente à révolutionner la notion d'œuvre et de travail artistique. Les arts appliqués se mêlent à l'architecture, la peinture et la sculpture pour arriver à l'émergence d'un art total où la technique ne s'oppose pas au style, la forme au fond, l'esthétique à la pratique, où l'apparence d'une fourchette est aussi importante que celle d'un tableau. Le Bauhaus est à la pointe de la modernité et en suivant pendant une petite année les enseignements de Sándor Bortnik, Vasarely s'ouvre à un monde nouveau. Il se débarrasse, selon ses mots, de cette vision bourgeoise de l'art, celle du tableau trônant dans le salon et représentant la nature, Dieu ou n'importe quoi, dans son beau cadre doré. Installé à Paris, puis à Arcueil à partir de 1930, Vasarely n'est pas excessivement sensible à l'art de son temps. C'est à peine si le milieu parisien connaît le Bauhaus ou le constructivisme russe, mouvement initiateur qui mènera à l'abstraction picturale, deux socles majeurs pour Vasarely. Pendant ce temps, il mène une brillante carrière de graphiste publicitaire qui lui permet de s'adonner à ses recherches formelles. Dans les années 30, sa série des zèbres, qui n'est pas liée à ses commandes professionnelles, voit émerger son style particulier. Les corps entremêlés des kidés n'apparaissent pas par le contour du trait, mais par l'opposition de leurs rayures et la juxtaposition des contrastes, une façon d'envisager le dessin qui sera la base de son travail. En observant des craquelures sur les carreaux de faïence du métro, puis les formes ovoïdes des galets sur les plages de Belle-Île-en-Mer dont il s'inspire pour ses créations, il apparaît de plus en plus à Vasarely que des formes élémentaires, des ruptures de lignes et des contrastes primitifs régissent autant l'univers que la peinture. Dès lors, Vasarely va s'attacher à donner une autre dimension à l'art. En brisant les équilibres pour créer l'illusion du mouvement, il va au-delà des deux dimensions du tableau ou même des trois dimensions de la sculpture. Car en intégrant le mouvement et donc l'idée d'espace et de temps, Vasarely et ses comparses font émerger, selon les mots du manifeste de l'exposition de 1955, une nouvelle beauté plastique mouvante et émouvante, une quatrième dimension. La brèche est ouverte et Vasarely s'y engouffre pleinement. Dans les années 60 et 70, il manie désormais la couleur, flashy de préférence, et sa patte devient connue de tous. Des compositions géométriques donnent l'illusion de gonflement, de rotation, de basculement ou d'ondulation. Les jeux optiques de Vasarely deviennent le symbole de la modernité et envahissent l'univers visuel de l'époque. Dans les films, à la télévision, dans les intérieurs, sur les livres, les disques, les abat-jours ou les chaussettes, le monde entier vit dans les images de Vasarely. Il dit lui-même qu'il est ravi que ses compositions ornent des kilomètres de torchons. Car le langage de Vasarely se veut universel. Plus besoin de codes intellectuels ou de connaissances particulières pour comprendre l'art contemporain. L'art n'a pas à se comprendre mais à se sentir et n'a d'intérêt que grâce au spectateur puisque c'est dans l'œil de celui qui regarde que se crée l'illusion. Vasarely met à mal le mythe de l'artiste et de l'unicité de l'œuvre. Son travail, lui, le veut reproductible, multipliable à l'infini dans un système de création industrialisé où l'original n'a pas plus de valeur que la copie. Ses compositions ont autant leur place sur des cartes postales que dans de monumentales architectures, comme dans le hall de la Nouvelle Gare Montparnasse en 1971 ou dans le bâtiment de la Fondation à son nom qu'il crée en 1976 dans le but d'instiguer le beau partout et de rendre l'art définitivement populaire. Mais peut-être son travail a-t-il envahi l'espace et l'imaginaire jusqu'à l'indigestion. Car celui qui disait que le mot artiste était démodé va justement passer de mode. L'art de Vasarely incarne tellement son époque qu'il va presque disparaître avec elle. Les Trente Glorieuses et la foi dans le progrès s'achèvent sur des désillusions. Et pendant longtemps, les illusions d'optique de Vasarely vont davantage incarner une certaine nostalgie que l'avenir, même si de récentes rétrospectives ont avec justesse réhabilité son travail et sa volonté de révolutionner l'art au-delà de simples jeux visuels.